Merci. Je suis désolée, vous devez m'écouter deux fois. Alors, je clique sur le vert pour avancer, c'est ça? Cette étude est un suivi de travaux antérieurs que j'ai réalisés à l'INSPQ examinant l'espérance de vie des francophones et des anglophones à Montréal. Alors, un peu de contexte pour commencer. L'espérance de vie à la naissance, peut-être en avez-vous entendu parler ou pas. L'espérance de vie, c'est quelque chose que l'on utilise souvent en santé pour faire le suivi de la santé d'une population. Qu'est-ce que l'espérance de vie? C'est le nombre d'années que l'on peut s'attendre à vivre. Par exemple, les gens dans cette salle ont une espérance de vie donnée. Vous pouvez vous attendre à vivre un certain nombre d'années, donc habituellement jusqu'à 80 ans à l'heure actuelle. Souvent, l'espérance de vie est mesurée à la naissance. Un nouveau-né, si vous avez un nouveau-né à la maison, si c'est un homme, il vivra jusqu'à 77 ans. Si c'est une petite fille, 82 ans. Qu'avons-nous noté? L'espérance de vie a augmenté au Québec, et particulièrement pour les francophones, beaucoup plus rapidement que pour les anglophones. Il y avait un écart important entre les anglophones et les francophones par le passé qui s'est rétréci graduellement au fil du temps. Donc, les francophones ont rattrapé les anglophones. Il existe encore un écart entre les deux. Toutefois, examinons ce cliché. Mettons l'accent sur les hommes. Les francophones en haut, les anglophones en bas. Au début des années 90, les hommes au Québec, les hommes francophones, vivaient 72 ans. Rendu en 2005, 77 ans. Pour les anglophones, par opposition, les hommes anglophones avaient la même espérance de vie que les hommes francophones aujourd'hui. Mais en 1990, les francophones se sont rattrapés, ont rattrapé les anglophones. Maintenant, les hommes anglophones aujourd'hui ont une espérance de vie de 79 ans. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des différences importantes et il s'agit de grandes différences pour les femmes. C'est la même chose parce qu'une différence d'un an d'espérance de vie, on a besoin de beaucoup de décès. Je présume que c'est drôle. Qu'est-ce qui explique ces tendances? C'est un domaine où nous pouvons avoir une incidence. Ces différences sont injustes. Elles ne devraient pas exister parce que la génétique des anglophones et des francophones n'est pas responsable de ces différences. Il y a une question intéressante, peut-être importante. Peut-être que l'état socio-économique pourra déterminer ces différences au niveau de l'espérance de vie. Voilà ce que nous voulons examiner, l'étendue dans laquelle les différences d'espérance de vie sont déterminées par la situation socio-économique. Notre objectif maintenant est d'estimer les inégalités socio-économiques en espérance de vie pour les francophones et les anglophones à Montréal, identifier les causes de décès contribuant à cet écart de l'espérance de vie entre les anglophones riches et pauvres et voir comment cela a changé au fil du temps. Maintenant, un bref survol de la méthodologie. Je me rends compte, après avoir vu toutes les présentations, que nous utilisons un langage différent. Les épidémiologistes utilisent des mots donnés, les linguistiques, d'autres mots. Je vais essayer d'utiliser des mots simples. L'écart d'espérance de vie est calculé à partir d'un taux de mortalité sous-jacent. La différence entre espérance de vie de deux groupes dépend de ces taux sous-jacents. Ils s'additionnent et vous pouvez ventiler l'espérance de vie, la différence d'espérance de vie entre deux groupes en petites pochettes pour savoir quelles sont les causes de mortalité expliquent la plus grande partie de cet écart. Voilà ce que nous avons l'intention de faire. Nous allons utiliser le registre des décès du Québec, les décès à Montréal, pour les francophones et les anglophones, nous utilisons aussi des marqueurs de privation socio-économique selon les quartiers. C'est l'indice de Pampalon. On l'utilise souvent au plan de la santé pour décrire des pochettes de privation au Québec. Maintenant que je vous ai donné ces explications, peut-être que je ne l'ai pas très bien fait, mais bon, ça c'est censé être en rouge. Est-ce que vous voyez à l'écran? Oui? Mettons l'accent ici, les hommes francophones, 77 ans aujourd'hui, ou enfin, en 2006, et les hommes anglophones. Il y a une différence de 2 ans, 79,1 moins 77,1. Ça fait 2 ans de différence entre les hommes anglophones et francophones à Montréal. J'ai mentionné que c'était une grande différence, vous avez ri, mais rappelez-vous de cet écart de 2 ans. Comme vous pouvez le voir, il y a bien des choses dont on peut mourir. Je ne vous montre pas cela pour vous faire peur, mais nous étudions un grand nombre de causes pour ventiler cet écart de l'espérance de vie. J'utilise ça comme exemple. Le cancer du poumon, le suicide, la cardiopathie et les troubles respiratoires, les incidents du transport sont responsables de la plus grande partie de cet écart de 2 ans entre les hommes et les femmes. Alors, maladies respiratoires, c'est souvent dû au tabagisme, mais suicide, c'est étonnant. Pourquoi est-ce que les francophones se suicident? Plutôt, on parlait de présenter des données importantes au gouvernement pour leur montrer quoi financer. Ça, c'est vraiment étonnant, parce que les anglophones sont mieux positionnés. Pourquoi? De quoi les francophones ont-ils besoin? D'intervention, quelque chose qui est associé à des facteurs protecteurs qui font que les anglophones ne se suicident pas. Alors, le suicide, selon cette analyse, constitue un domaine qui, où il devrait peut-être y avoir des investissements valables. Alors, les résultats escomptés, une fois que nous aurons fait cette analyse, nous comprendrons mieux les écarts de l'espérance de vie entre les riches et les pauvres chez les anglophones. Et disons que ce côté, si la salle est riche, l'autre est pauvre, on sera en mesure de comprendre ce qui vous tue, comparativement à ce qui vous tue, vous, et ce à quoi on devrait travailler pour approfondir ce travail et améliorer la santé de tous. Bien sûr, on examine aussi la situation des francophones. Ce ne sont pas seulement les anglophones qui sont riches et pauvres, les francophones aussi. Est-ce que les causes sont différentes entre ces deux groupes? Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions ou des suggestions, venez me voir ou appelez-moi. N'hésitez pas. Ne vous gênez pas.